LBD. La base décide. La base définit.
Salut, vous écoutez LBD, le podcast de Sud Éducation. Cette semaine, on va parler du 8 mars, la journée mondiale de lutte pour les droits des femmes. Un podcast sera diffusé chaque jour jusqu'au 8 mars. Je retrouve Mélanie sur la route de son travail. Nous traversons le bois, donc une très belle route pour aller au travail. Mélanie, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour, oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Mélanie, je suis libraire à Paris dans le 12e arrondissement, dans une librairie qui s'appelle À tout livre. Et donc moi, je m'occupe du rayon sciences humaines depuis un petit moment maintenant, et une de mes grandes fiertés professionnellement, c'est d'avoir créé dans ce rayon sciences humaines un rayon écologie, mais aussi un rayon questions féministes qui fonctionne vraiment bien depuis quelques temps maintenant.
Bah justement, on voulait te parler de féminisme du 8 mars, et est-ce que tu pourrais nous faire quelques recommandations de lecture, soit sur des problématiques liées aux droits des femmes, soit sur le 8 mars, soit sur un sujet qui s'y rapporte. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller ?
Eh ben, le premier livre qui me vient à l'esprit et qui est vraiment sur le 8 mars, c'est un chouette bouquin qui vient de sortir aux éditions Hors d'atteinte, qui s'appelle « Je veux me battre partout où il y a de la vie ». Cette citation, elle vient de Clara Zetkin, et ce livre donc présente cette grande féministe qu'on connaît pas trop en France et qui est pourtant à l'origine de la journée du 8 mars. Elle est née en Allemagne au milieu du 19e siècle, elle s'est exilée en France quelques années après la Commune, elle a croisé Louise Michel, elle a croisé Laura Marx qui était en train de travailler sur les écrits de son père avec son mari Paul Lafargue. Surtout, elle a participé au congrès fondateur de la Deuxième Internationale, dans laquelle elle fait une prise de parole très remarquée. C'est le moment où les socialistes se posent la question de savoir si cette histoire de travail des femmes, ce serait pas une espèce de vaste machination capitaliste qui vise à faire baisser le coût de la main-d'œuvre. Et elle prend la parole pour dire pas du tout, enfin peut-être en tout cas ce qui est important c'est qu'il n'y a pas d'autonomie possible sans indépendance financière et donc c'est très important que les femmes aient accès au travail et elle va passer toute sa vie à défendre le droit des travailleuses principalement. Elle retourne en Allemagne, elle va devenir très proche de Rosa Luxemburg et donc c'est elle qui va proposer cette journée internationale de manifestation et de revendication autour du droit des femmes. Donc ça, c'est le premier bouquin auquel je penserais si on me demandait quelque chose sur le 8 mars, puisque c'est vraiment,
ça a vraiment
l'origine.
On a envie d'aller l'acheter tout de suite en librairie. Moi, je sais que je vais faire ça,
oui.
Déjà.
Eh bien, n'hésitez pas, mais oui, mais oui. Le deuxième truc auquel je voudrais penser autour du 8 mars, c'est une revue. Je la prends pour la montrer, mais on a la radio, ça ne sert à rien, pardon. Ça s'appelle La Déferlante. C'est une revue qui est créée et dirigée par quatre femmes. Je les cite vite. Marie Barbier, Lucie Geoffroy, Emmanuelle Jess et Marion Pilas. Donc, le tout premier numéro sort là en mars 2021. Le projet de cette revue, c'est vraiment de faire un lieu de rencontre entre les idées féministes, de parler de tous les courants, essayer de donner à comprendre et à réfléchir sur tous les débats qui agitent aujourd'hui les féministes. Faire dialoguer des chercheuses, des activistes, des journalistes, des intellectuels. Dans ce premier numéro, il y a une rencontre croisée hyper intéressante entre Annie Ernaux et Céline Sciamma. Vraiment, moi, je vous la recommande. Il y a un gros dossier qui s'appelle « Naître », qui est le premier dossier d'une longue série autour de la théorie du genre. Ce sera à chaque fois sur un infinitif, et donc on commence par « Naître » puisque c'est là que tout commence. Voilà, il y a de la BD, il y a de la photo, il y a des chroniques, des enquêtes, c'est très très complet. C'est 19 euros, c'est tous les 3 mois. Et ça s'appelle donc La Déferlante. J'enchaîne avec un coup de cœur très personnel pour le coup. C'est un petit livre en poche qui s'appelle 19 femmes, écrit par Samar Yazbek. Samar Yazbek, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous ne la connaissez pas, il faut absolument la connaître. Samar Yazbek, c'est une militante syrienne au départ, elle a fait des études de lettres, elle a vraiment l'amour de la langue, de la littérature en elle. Elle a écrit des romans pour commencer, et puis quand la révolution éclate en Syrie, elle a commencé à documenter ce qu'elle voyait, c'est-à-dire les violences terribles commises par le gouvernement à l'encontre des manifestants. Pour ça, elle est persécutée, poursuivie, elle a fini par s'exiler en France. Elle a continué à écrire sur la révolution syrienne au péril de sa vie puisqu'elle est retournée incognito plusieurs fois. C'est un livre magnifique qui s'appelle « Les portes du néant » dans lequel elle raconte ça. Et là, dans 19 femmes, le sous-titre c'est « Les Syriennes racontent ». Elle nous donne le témoignage donc, de 19 femmes qu'elle a elle-même réécrites. Elle leur a soumise ensuite pour approbation, hein, mais elle a rencontré une cinquantaine de Syriennes qui sont exilées aujourd'hui dans plusieurs pays d'Europe. Elle leur a demandé de lui raconter son histoire. Son idée à elle, c'est d'essayer de retracer l'itinéraire de ces femmes qui ont toutes pris une part active à la Révolution, qui ont toutes été obligées de s'exiler à un moment ou à un autre, mais qui n'ont pas le même parcours, qui ne sont pas de la même génération, qui n'ont pas les mêmes raisons d'entrer en Révolution, qui n'ont pas eu les mêmes... mésaventures, si on peut dire. Enfin, il y en a certaines qui ont été torturées, il y en a d'autres qui ont réussi à s'enfuir sans passer par cette case-là. Au-delà du fait, donc le premier but de ce livre, c'est de faire un vrai travail de mémoire pour essayer de contrer le récit qui est imposé aujourd'hui par Bachar al-Assad sur le fait que c'est des terroristes qu'il est en train d'exterminer. Elle veut aussi vraiment donner à entendre les voix de ces femmes qui se sont soulevées contre un régime oppresseur pour lutter avec des camarades, hommes aussi, pour plus de droits, et qui ont souvent, tout le temps en fait, à chaque fin des témoignages, il y a un moment où il a fallu qu'elles luttent contre leur propre camp, parce que c'est des femmes qui accèdent à l'autonomie, elles dérangent. Et donc c'est ce double drame-là que Samar Yazbek s'est très très bien porté, et encore une fois c'est très bien écrit, c'est extrêmement difficile à lire, mais c'est 19 témoignages, donc on en lit une fois et après on va voir autre chose, et c'est quand même vraiment essentiel, je pense. On parle pas beaucoup de la Syrie en Occident, alors qu'il se passe encore là-bas des choses terribles.
Tu as encore une recommandation?
Avant, je voulais juste glisser, qu'elle a créé en 2012 une ONG qui s'appelle Women Now for Development, qui est basée à Paris, mais dont le but, c'est vraiment de créer des centres d'éducation à destination des femmes et des enfants dans tous les pays en guerre. En Syrie, il n'y en a plus parce qu'ils ont été bombardés systématiquement jusqu'à ce que tout s'arrête. Mais voilà, c'est quand même... Donc c'est Women Now for Development. Très beau projet. Voilà. Et mon dernier coup de cœur, il est magnifique, il est joyeux, il est fantastique, ça s'appelle L'Art de la Joie.
Ah, mais oui!
C'est un des plus beaux romans que j'ai jamais lu, n'est-ce pas?
C'est le plus beau roman.
Mais oui, il est sorti dans les années, à la fin des années 90, quelques années après la mort de son autrice Goliarda Sapienza, qui avait l'air d'être vraiment une grande figure. Enfin, déjà, juste l'autrice est incroyable, italienne. C'est traduit donc de l'italien par Nathalie Castagnier, et c'est aux éditions du Tripode. C'est un énorme bouquin qui fait 600 pages. Moi, à chaque fois que je le sors dans la librairie, que je le montre aux clients, il y a toujours un petit moment de recul.
Et pourtant, une fois qu'on est dedans,
exactement.
On ne peut pas du tout en sortir.
Bah, c'est ça, c'est fantastique. C'est l'histoire de Modesta, qui naît le 1er janvier 1900 dans un village extrêmement pauvre, dans une famille très pauvre en Italie, et qui va traverser le XXe siècle italien. Donc on va la suivre pendant toute sa vie. C'est le prétexte pour Goliarda Sapienza pour parler d'absolument... toutes les problématiques que peut rencontrer une femme dans sa vie. Il y a la question de l'église parce qu'elle rentre au couvent, il y a la question du viol, il y a la question des multiples relations amoureuses qu'aura Modesta. Et surtout, il y a aussi la découverte de la politique, l'engagement dans la résistance, mais c'est compliqué quand on est une femme. Et la découverte de l'éducation aussi qui arrive assez tard, la réflexion sur son parcours. Ensuite, c'est vraiment... Moi, c'est un des livres qui m'a accompagnée énormément, qu'on continue à vendre à la librairie. Il est encore sur la table, alors que donc il est sorti dans les années 90. On continue à le conseiller vraiment à tour de bras. On a très, très peu de mécontents.
Non, je pense que c'est pas possible.
C'est fantastique. Puis
la question sur l'éducation des enfants aussi, le rapport à la maternité, le lien biologique, le lien pas biologique.
Complètement.
Ça me fait très plaisir que tu parles de ce livre.
Et bah, cool,
j'ai dans mon sac à dos les carnets de Goliarda Sapienza que je suis en train de lire en ce moment, qui sont tout aussi merveilleux sur la suite de l'écriture de L'Art de la Joie. Mais c'est super que tu en parles et que tu le présentes comme un coup de cœur, parce qu'il faut le lire, vraiment, il faut le lire.
C'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand vous m'avez demandé des livres autour du 8 mars, c'est vraiment... il faut le lire, je suis d'accord.
Écoute, merci beaucoup. J'ai une dernière question, qui du coup s'éloigne un tout petit peu de la littérature, mais est-ce que tu te considères comme une libraire engagée? Qu'est-ce que ça recoupe pour toi en fait dans ta pratique professionnelle?
C'est une question qui est vraiment intéressante et qui est un petit peu compliquée, parce que moi je suis dans une librairie militante. Non, justement, pas militante, pardon. Moi je suis dans une librairie généraliste. C'est-à-dire qu'il y a des libraires qui peuvent plus facilement dire « Moi, je suis engagée parce que je suis dans une librairie militante », donc une librairie qui va choisir d'avoir exclusivement des livres qui sont plutôt militants, et qui donc va choisir de ne pas avoir des livres qui se vendent beaucoup, mais qui représentent un discours assez dégueulasse, hein, on peut le dire, comme le Zemmour, comme le Darmanin, comme ce genre de trucs qui se vendent très très bien. Et moi qui
ça
suis en sciences humaines... Oui, bah
c'est
oui.
Terrifiant.
C'est terrifiant. Et donc, moi qui suis en sciences humaines, c'est une question que je me pose très régulièrement. Par exemple, la dernière revue de Michel Onfray, Front Populaire, qui est absolument... Enfin, bon, moi, ça me terrifie. Ça se vend très bien et c'est dans mon rayon. Mais moi, je considère que... Enfin, j'arrive quand même à me considérer comme quelqu'un d'engagé, justement parce que j'essaye, dans ce rayon-là, où la vocation est d'accueillir tous les clients. Donc ça, c'est cette décision-là d'être dans une librairie généraliste, c'est les patrons qui la prennent. C'est les patrons qui disent si on aura Éric Zemmour, si on va avoir Darmanin, on ne fait pas l'impasse sur ces choses-là, avec l'argument de dire il faut que tout le monde puisse entrer dans la librairie et trouver les livres dont on parle dans les médias. Après, la question, c'est où est-ce qu'on met ces livres dans la librairie? Est-ce qu'on les met en avant? Est-ce qu'on ne les met pas en avant? Comment est-ce qu'on accueille les gens qui viennent? Moi, j'essaye d'être, en étant poli, de garder une espèce d'ouverture vers « Oui, vous savez, il y a d'autres façons de penser, il y a... Regardez cet autre livre que je pose à côté du livre d'Éric Zemmour, par exemple. »
Ou...
Voilà, c'est comme ça que je conçois. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi la création de rayons sur lesquels il y a des...
De rayons engagés?
Des rayons engagés. Oui, quand je suis arrivée dans la librairie, il n'y avait pas de rayon questions féministes, il n'y avait pas de rayon écologie. Quand je posais la question, on m'a dit « bah oui, pourquoi pas, vas-y, essaye ». C'était une toute petite étagère au début, qui devait y avoir, 20 livres, un truc comme ça. Et puis, c'est aussi l'évolution de la société et l'évolution des parutions éditoriales, hein, qui ont accompagné mon travail à moi. Mais quand même, vraiment, maintenant, je suis contente de voir qu'il y a des gens qui viennent et qui prennent le temps de regarder tous les livres qui sont présentés dans ce rayon-là. Le rayon a beaucoup grandi. On fait des rencontres autour, c'est ça aussi, oui. Un des trucs importants aussi pour inscrire notre engagement dans notre métier, c'est choisir qui est-ce qu'on invite. Par exemple, Samar Yazbek, dont je parlais tout à l'heure, elle est venue à la librairie, c'est une grande, grande fierté pour moi. Ouais. D'autres autrices, on avait fait une rencontre avec Amandine Day et Aude Vidal autour de la question de la sexualité, de la question aussi des mouvements féministes, de comment est-ce qu'on discute entre féministes.
D'accord. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations, c'était vraiment passionnant et c'était très agréable de faire cette interview dans le cadre où nous sommes, donc au bois de Vincennes, au milieu des oiseaux. Donc merci pour ce très intéressant entretien.
Et ben, c'était un grand plaisir, merci beaucoup pour l'invitation.
Donc lisez, syndiquez-vous.
Oui.
Rendez-vous demain à la veille du 8 mars et d'ici là... Thank you.